7h32 sur BFM Business, l'info éco, c'est avec Léo Dumas.
Il n'y aura pas d'annonce de mesures demain lors du comité d'alerte des finances publiques, mais il y aura un cap, dit le ministre du budget ce matin, qui promet plus de détails aussi sur la croissance et l'inflation. David Amiel qui révèle que les recettes fiscales liées au carburant ont même baissé de 80 millions d'euros au premier semestre. Écoutez.
Rappelez-vous, quelques jours après même le déclenchement de l'offensive, on nous disait qu'il y a une cagnotte cachée. Eh ben, ce qu'on montrera demain, au bout de 6 mois, c'est que les recettes fiscales liées au carburant ont baissé.
Vous voulez dire que la hausse des carburants n'a rien rapporté
à 2025. Rien rapporté, au contraire, il y a une perte de plus de 80 millions d'euros quand on compare les recettes du carburant des 6 premiers mois de l'année 2026 par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2025. Heureusement.
Et c'est l'actualité des entreprises à 8h33 et c'est Thales qui rafle finalement la mise dans le dossier Exail Technologies. Le géant français annonce ce matin un accord pour reprendre les 35% du capital de la famille Gorgé avant une acquisition à 100% via une OPA. Offre qui valoriserait l'entreprise à 3,9 milliards d'euros, c'est-à-dire une prime de 44% par rapport au cours qui précédait l'annonce de discussions qui n'ont pas abouti avec Safran.
Raphaël Gorgé qui sera notre invité demain à partir de 8h30. Le PDG d'Ixel Technologies, ne ratez pas ce rendez-vous.
Le groupe Casino lui annonce ce matin avoir reçu des propositions fermes de ses créanciers et de son principal actionnaire, Daniel Kretinsky, dans la restructuration de sa dette. Elles sont massivement dilutives pour les actionnaires actuels, selon le distributeur qui doit rembourser 1,4 milliard en mars 2027. Il prendra une décision ce mois-ci après examen de toutes les positions par sa gouvernance. Et puis, grosse inquiétude ce matin chez les voisins de la Chine, alors que Pékin a effectué un test de missile intercontinental grâce à un sous-marin à propulsion nucléaire dans le Pacifique. L'Australie avertit d'un risque de déstabilisation de la région quand le Japon, qui avait été prévenu en avance de cet essai, déclare avoir exhorté la Chine à réexaminer cette idée.
Il est 8h34, l'actualité internationale avec Annalisa Capellini et les unes de la presse qui sont consacrées au détroit d'Ormuz.
Oui, parce que des pétroliers et des méthaniers sont en train de traverser le détroit d'Ormuz par la voie omanaise. C'est ce qu'on lit ce matin à la une de Bloomberg. En fait, les marines des pays occidentaux continuent d'alerter sur le fait qu'il y a encore des risques à traverser le détroit d'Ormuz et que notamment le milieu du détroit pourrait être miné par les Iraniens. Et donc tous les bateaux, on le voit assez clairement sur les images qui montrent les trajectoires, les bateaux essayent de passer en fait en se tenant juste à côté des côtes omanaises pour passer en étant un peu plus sûr. Ça affaiblit donc la position de l'Iran qui utilise le détroit d'Ormuz dans les négociations face aux Américains. Et c'est le Wall Street Journal qui l'explique ce matin. Puisque le trafic reprend, puisque les producteurs du Golfe commencent à remettre en fonction des puits qui étaient arrêtés, et puisque le prix du pétrole baisse, eh bien tout ça n'arrange pas vraiment Téhéran. Maintenant, le nerf de la guerre, ça va être la reconstitution des stocks pétroliers.
Le pétrole qui recommence à circuler et Donald Trump qui a du mal à convaincre ses électeurs.
Oui, c'est vrai. Alors, il a réussi à terminer le conflit, mais visiblement, les Américains ne sont pas vraiment convaincus par le bilan de cette guerre. C'est un sondage qui est publié par le Financial Times ce matin qui nous dit que c'est une question économique, finalement, hein, puisque la Maison-Blanche a demandé au Congrès d'approuver un budget fédéral supplémentaire de 67 milliards de dollars pour couvrir les dépenses de la guerre engagées uniquement jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, 6 Américains sur 10 estiment que ça n'en vaut pas le coup. Tout simplement, ils ne se retrouvent pas au niveau économique. 44% des électeurs estiment aussi que la guerre a affaibli la position des États-Unis face à l'Iran. Bon, on sait que les sondages ne nous disent pas tout, ne reflètent pas l'entièreté de la réalité, mais ça montre quand même que Donald Trump pourrait payer cher ce choix de la guerre en Iran à quelques mois des élections de mi-mandat.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Il est 6h36, la bourse. Nicolas Pagnès, qu'est-ce qu'on attend dans 25 minutes pour l'ouverture?
On attend des marchés français et allemands, donc le CAC 40 ou le DAX, qui sont toujours attendus proches de l'équilibre hein, après avoir clôturé dans le vert vendredi en réaction notamment au rapport sur l'emploi publié la veille et alors que les marchés américains étaient fermés. À noter qu'on suivra à la Bourse de Paris les valeurs de défense, hein, alors que Thales annonce un accord pour racheter Exail. Donc l'accord prévoit dans un premier temps l'acquisition de la participation de la famille Gorgé qui détient près de 36% du capital d'Exail Technologies, puis un rachat à 100% à l'issue d'une OPA qui valoriserait Exail à 3,9 milliards d'euros. On parle donc d'une offre à 134 euros par action. Ça a été dit il y a un instant, c'est une prime de 44% par rapport au dernier cours d'Exail Technologies. En préouverture, on note que Thales perd 1%, que Exail perd près de 2%, et Safran qui était positionné sur le dossier jusqu'à vendredi et qui finalement s'est désengagé du dossier, recule de 0,03%. On note rapidement que le pétrole est toujours sur des niveaux aux alentours de 72 dollars le baril de Brent et 68 dollars, juste en dessous des 68 dollars pour le WTI, alors que l'OPEP a annoncé augmenter sa production pour le mois d'août de 188 000 barils par jour. C'est le même niveau d'augmentation de production pour les mois de juin, juillet et donc maintenant pour le mois d'août.
Et sachez qu'à l'instant, le groupe Casino annonce avoir reçu des propositions fermes de ses créanciers. Il négocie depuis novembre dernier. Il est 8h37 dans un instant, le club de la bourse. C'est Wilfried Galland et Jean-Louis Nakamura qui vont nous rejoindre. Vous ne bougez pas, à tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h39 sur BFM Business. Nos invités dans le club de la bourse, c'est aujourd'hui avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. À côté de vous, Jean-Louis Nakamura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion Global Equities de Vontobel AM. Je commence avec nos histoires d'emploi US, parce que c'était jeudi, parce que c'était férié vendredi. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Nicolas?
Alors, il faut retenir que les emplois non agricoles ont augmenté de 57 000 le mois dernier. Il faut surtout retenir que le nombre d'emplois créés aux États-Unis a été révisé à la baisse, notamment pour le mois d'avril. On est passé de 179 000 annoncés précédemment, on est passé à 148 000 à l'heure actuelle. Pour le mois de mai, on est passé de 172 000 à 129 000. C'est des chiffres qui laissent entendre, en tout cas c'est ce que le marché semble acheter, que la Fed pourrait reporter une perspective de hausse de taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.
Wilfried Galland, sans aller jusqu'à faire des prévisions sur les hausses ou les baisses de taux, parce que ça peut changer à la minute, qu'est-ce que ça nous dit de la vigueur de l'économie américaine?
Alors, si on prend un tout petit peu de recul sur ces chiffres, si on fait une moyenne 6 mois, on est au plus haut depuis 2015 hein, quand même. Donc c'est un bon chiffre hein, sur ces éléments-là. 2025. Donc en fait on a eu en fin de trimestre de l'année dernière, on avait une baisse véritablement du marché de l'emploi, on avait un effritement. Là, on est reparti sur des chiffres qui sont, on va dire, des chiffres de stabilisation et des chiffres de stabilisation plutôt haussiers sur le marché de l'emploi si on prend effectivement une moyenne un peu plus longue. En revanche, ce qu'on voit quand même, c'est que on n'a pas de création massive et surtout, on n'a pas une augmentation des salaires. C'est ça qui était très important dans les chiffres de l'emploi. Voilà, les salaires aux États-Unis par rapport au prix ont plutôt tendance à s'effriter. Et donc le pouvoir d'achat américain a plutôt tendance à baisser. Et donc la consommation, parce qu'on a eu également les chiffres de consommation, la consommation a plutôt tendance à baisser dans l'activité. Donc ça, effectivement, ça plaide pas du tout en faveur d'un resserrement financier. Ça plaide en faveur d'une stabilisation économique, mais d'un pilier de la croissance qui repose de plus en plus sur les investissements, de moins en moins sur la consommation. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt, effectivement, à resserrer les conditions financières. Vous avez intérêt à attendre. En plus, ils veulent changer énormément de choses à la Fed. Je pense que rien de presse, quoi.
Jean-Louis Nakamura, quelle est votre analyse sur l'économie américaine?
Au-delà de ce qui vient d'être dit, je partage complètement le diagnostic. Je crois qu'il y a deux autres messages qui sont intéressants dans ces statistiques de l'emploi. C'est d'une part que ça confirme que depuis le Covid, le BLS, le Bureau des statistiques du marché du travail aux États-Unis, a beaucoup de mal avec la mesure au mois le mois des données. On a des révisions très larges et quasiment systématiques, parfois à la hausse, souvent à la baisse. La deuxième chose, c'est que Monsieur Arch, lors de son premier meeting, a surpris le marché, ou en tout cas à moitié surpris le marché, en voulant remettre en cause la forward guidance de la Fed à l'avenir, en disant qu'il allait beaucoup plus s'appuyer sur les données. Comment on s'appuie sur des données du marché du travail lorsqu'elles sont aussi peu fiables, au moins à court terme? Même s'il y a des tendances de fond qui se dégagent.
Sur la fiabilité, pardon, est-ce qu'on paye encore les épisodes de shutdown aux États-Unis ou est-ce que c'est un problème plus global de capacité à mesurer les chiffres de l'emploi aux États-Unis?
Il y a de moins en moins de taux de réponse aussi. Il y a de moins en moins de taux de réponse, voilà. En fait.
Parce qu'il y a un problème.
C'est-à-dire qu'en fait, les données de l'emploi, il n'y a pas Pôle emploi, c'est pas les mêmes systèmes. En fait, c'est véritablement des sondages, en fait, entreprises et ménages. Et vous avez de moins en moins de répondants aux États-Unis. On est passé d'un. En gros, sur tous les sondages économiques, on est passé d'un taux taux de réponse entre 80 et 85% à un taux de réponse d'à peine 60. Donc effectivement, la solidité statistique est de plus en plus faible.
Jean-Louis. Au-delà du taux de réponse qui est très faible, on a aussi un mouvement de retrait du marché du travail. Donc un double mouvement de retrait du marché du travail, de hausse de nombre de titulaires de multiples jobs.
Mais de retrait volontaire.
De retrait, ouais. On ne sait pas toujours s'ils sont volontaires. Donc les interprétations sont multiples. Hein. On est encore entre gain de productivité, remplacement, découragement, post-Covid. Il y a beaucoup d'interprétations qui s'entrechoquent aujourd'hui. Personne n'a la réponse absolue. Évidemment, en fonction du facteur qui sera le facteur prédominant et qu'on ne connaîtra probablement qu'à posteriori, on aura la réponse. C'est pour ça que finalement, s'appuyer sur des données au moins le mois, c'est quand même très compliqué. Moi, je pense qu'effectivement, la situation de l'économie américaine est telle que ça invite à la prudence monétaire, au minimum à un buy and hold. Et on verra après l'été, si l'anticipation du marché toujours persistant d'une hausse de taux pour cette année subsiste ou pas. Mmh. Moi, je n'y crois pas trop.
Ça sert à rien de se faire peur tout de suite, quoi.
Ouais, non, exactement. Enfin, surtout que la Fed nous dit, je vais changer les indicateurs avec des indicateurs beaucoup plus de temps réel. Ouais. Hein, ils veulent même plus s'occuper...
Avec des inflations corps, enfin très, très précis.
Voilà, exactement. Des inflations tendance. Hein, en disant, leur objectif, et je pense que c'est un objectif qui est très louable, c'est-à-dire il faut arrêter de s'appuyer sur des données retard, donc le chômage, l'emploi, l'inflation, ce qui était en fait le triptyque de la Fed, hein, chômage, emploi, inflation, mais ça nous dit ce que l'économie était dans les derniers mois. Lui nous dit, je dois faire comme les entreprises, c'est-à-dire m'appuyer de plus en plus sur des données temps réel qui me permettent de dire, je vais
vers où je vais. Attendez, il va aller sur Polymarket lui aussi? Non, parce que c'est ça le sujet derrière quand même.
Non, en fait, vous avez énormément de choses en fait aujourd'hui qui sont disponibles aux États-Unis, comme les données par exemple de sur les cartes de crédit, les données sur les consommations d'essence, les données sur les demandes de crédit temps réel qui sont demandées en termes de crédit hypothécaire. Donc il y a énormément de choses en fait qui sont disponibles et qui sont pas en fait utilisées en termes de modèles. Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'organiser.
Parce que Jean-Louis Nakamura, quand on dit je m'appuie sur la data, enfin c'est un choix, on hiérarchise ce qu'on regarde, on choisit quoi. C'est
bon, le double mandat de la Fed, il est clair. Après effectivement, il peut s'implémenter de manière extrêmement diverse. Il y a aujourd'hui un autre phénomène qui découle directement de ce dont on vient de discuter, c'est cette K-shape économie aux États-Unis qui fait que seulement 65% de la consommation sont réalisées par les premiers et deuxièmes quartiles en termes supérieurs en termes de revenus, dont plus de 40% de la consommation par le premier quartile. Est-ce que ça rentre dans le mandat de la Fed de rééquilibrer ça? C'est pas évident. Néanmoins, ça pose quand même un problème de soutenabilité de la demande des ménages, effectivement d'un déséquilibre de l'économie américaine tiré par l'investissement et non pas par la consommation, comme ça a longtemps été le cas. Ça a des avantages, mais ça a un problème de soutenabilité. On va peut-être y venir, notamment avec tout ce qui a trait à la tech, évidemment. Il n'est pas sûr que le board du FOMC soit complètement consensuel sur le fait que c'est dans son mandat ou pas de corriger ce genre de choses.
Alors justement, dans la tech, on va avoir une nouvelle IPO avec SK Hynix qui va se lancer officiellement aujourd'hui, Nicolas.
Oui, alors le lancement de l'IPO de SK Hynix au Nasdaq, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va découvrir la fourchette de prix. Et puis le prix définitif, ce sera jeudi pour un début de cotation vendredi. SK Hynix, on le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, déjà coté à Séoul, qui a dépassé les 1000 milliards de dollars de valorisation en mai dernier, qui signe une progression de son titre de 275 d'une progression de 275% depuis le début de l'année. On parle de la deuxième plus grosse IPO après SpaceX cette année.
Alors c'est marrant, Wilfried, parce que en même temps on a Alex Karp qui est le patron de Palantir et qui nous dit cette révolution de l'IA, elle est survendue, beaucoup trop chère. Il y a espèce de ras-le-bol, il dit je représente un certain nombre de patrons américains, on a surpayé la révolution, on voit pas le ROI.
Ce que Alex Karp nous dit, c'est un peu le message des marchés ces dernières semaines, c'est-à-dire on a une oscillation qui est très très forte, beaucoup plus forte que ces derniers mois, autour par exemple de la valorisation justement des semi-conducteurs. C'était l'élément qui tirait le marché depuis le début de l'année. Effectivement, comme Nicolas l'a souligné, 275%, ça veut dire on a quand même multiplié quasiment par 4. Hein. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Sur des capitalisations qui ne sont pas des capitalisations de quelques milliards.
Ouais, ouais.
C'est absolument considérable. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un doute sur la capacité de la croissance à se maintenir parce que ça coûte de plus en plus cher. Et le fait que, par exemple, Micron ait annoncé d'avoir loqué pour les 5 prochaines années des contrats de livraison, c'est un double message. C'est à la fois dire je gère bien mon business parce que effectivement je vous donne de la visibilité sur un carnet de commandes à 5 ans. Ça veut dire aussi que si vous figez les prix au niveau où vous les avez aujourd'hui, et les commandes, ça veut dire que bah, vous dites que finalement, je vais peut-être pas encore en profiter pour augmenter les prix sur les prochains mois. Donc ça veut probablement dire que le momentum de cette industrie est en train de se normaliser. C'est une bonne chose. Et donc effectivement la question maintenant c'est qui va être le gagnant? Qui va être le gagnant de l'IA? Qui va être le gagnant de la tech? Ça bouleverse énormément de choses. Mais maintenant effectivement il y a eu des excès en termes de prix. Ces excès il va falloir les absorber. Qui va en profiter en termes de ROI, vous posez l'excellente question, et ça c'est la question des marchés aujourd'hui, donc on a une espèce de rotation entre bah, les fournisseurs de semi-conducteurs, les fournisseurs des hyperscalers, et puis ceux qui profitent véritablement pour améliorer leur business, et c'est probablement eux vers lesquels on va se tourner dans les prochaines semaines.
Jean-Louis, Alex Carpi dit on a été trop loin dans l'utilisation de tokens, alors parfois ça sert à rien, on paye cher, qu'est-ce que vous voyez?
Aujourd'hui, le marché, effectivement, est un petit peu dans le flou parce que pour qu'on justifie une hausse permanente ou plutôt une fin progressive et plutôt rapide de la subvention des tokens aujourd'hui par les hyperscalers, il faut que les entreprises qui les achètent, qui les consomment, y trouvent leur compte. Donc, elles réalisent ces fameux gains de productivité que les agents AI sont supposés apporter. Aujourd'hui, on en est loin. Parce qu'on sait que toute innovation technologique, en particulier de cette envergure, suppose d'abord des réorganisations internes aux entreprises, la remise en fond de l'organisation de leurs données, un certain nombre de réorganisations aussi structurelles qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent. Et donc, on ne va pas voir ces gains de productivité se matérialiser tout de suite. Et ça va forcément jouer un peu un frein, comme ça vient d'être dit, sur la capacité des hyperscalers à monter le prix des tokens. Aujourd'hui, un abonnement de 200 euros, votre abonnement personnel de 200 euros à Claude, à Anthropic, il coûte un coût de revient de 14 000 dollars Anthropic. Donc, c'est une subvention qui reste énorme. Les prix des tokens ont commencé à beaucoup augmenter, mais ils devraient augmenter beaucoup plus vite pour que ces hyperscalers y trouvent leur compte et justifient finalement les revenus qui leur permettent de financer, d'appeler le marché et de financer les investissements.
Si c'était le vrai prix, un abonnement à Claude, c'est 14 000 dollars.
Je vous donne un prix moyen qui évidemment sera très différent pour les entreprises de ce qui sera pour les particuliers demain. Mais aujourd'hui, très clairement, la stratégie des hyperscalers américains, c'est une stratégie de course à la puissance pour être le premier ou le deuxième.
Pour être partout, quoi.
Accaparer le marché dans un marché qui, par ailleurs, pénalise peu les concentrations.
Et puis après, on augmentera les prix encore plus.
Et une fois que les clients seront captifs, augmenter les prix. Voilà. On a vu ça sur des marchés équivalents, on va dire, à peu près. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est d'ailleurs une dynamique qui est très différente aux États-Unis de ce qu'elle est en Chine. Donc aujourd'hui, les hyperscalers américains, ils sont confrontés à un triple risque. Un risque de business model, à quel rythme ils peuvent échanger leur part de marché contre une hausse des prix des tokens et un taux d'utilisation en hausse de la part de la demande finale. Un risque technologique, sont-ils à risque de voir une technologie émerger qui va remettre en cause, et notamment les modèles open source chinois, leur modèle fermé. Et un risque dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, mais un risque potentiellement réglementaire. Il s'est manifesté en Chine depuis 5 ans. Il pourrait se manifester aux États-Unis de manière plus...
Réglementaire ou politique. On a vu Donald Trump s'inviter directement dans la sortie des dernières versions, notamment d'IA Anthropique. Est-ce que c'est un risque à prendre en compte, notamment pour la suite de la valorisation de ces valeurs-là?
Alors, moi, je pense que c'est un risque qui, aujourd'hui, est largement sous-estimé par le marché. Le marché n'a pas réagi il y a plusieurs mois, lorsqu'Anthropique, une première fois, avait été mise au ban par le Pentagone pour des raisons déjà... de sécurité ou plutôt de défaillance à vouloir respecter les instructions du Pentagone. Le marché a peu, voire pas du tout réagi maintenant, ensuite, lorsqu'il y a eu un ban d'exportation du modèle Claude, du dernier modèle Claude, aux clients non américains. Or, moi, ce que j'observe, je vivais à Hong Kong à l'époque où le gouvernement chinois a procédé à ce type de mesures vis-à-vis d'Alibaba il y a 4-5 ans. À l'époque, on parlait d'un marché chinois qui était devenu non investissable.
Ah oui,
bien sûr. Pas là du tout, évidemment, aux États-Unis.
Non, mais ça interpelle.
Ouais. Pas du tout là aux États-Unis, mais on est en train un petit peu de saper un petit peu beaucoup, enfin certains des éléments très importants qui faisaient la supériorité du marché américain pour un investisseur non résident.
Wilfried.
Oui, moi je suis beaucoup moins inquiet que Jean-Louis hein, là-dessus. Je pense qu'on est dans un monde de puissance et un monde de rivalité. Et à la fin, l'argument de est-ce que vous voulez qu'on gagne vis-à-vis des Chinois est un argument qui, à chaque fois, est l'argument majeur. Et donc, il y a effectivement quelques velléités de blocage pendant quelques jours, voire éventuellement 2-3 semaines, mais on voit que ça s'arrête très vite. En tout cas, ça s'arrête très vite au sein des États-Unis. Or, ce qui importe au marché sont les États-Unis.
Mais
le
moi,
reste, en fait, ils s'en fichent complètement.
J'entends, Wilfried, des boîtes américaines utiliser des modèles chinois, hein, en disant...
Il y en a de moins en... Enfin, dans les très grandes boîtes américaines,
Non, européenne.
Ah oui, ah, pardon. Ouais.
En disant que vous ne voulez pas qu'on ait anthropique, bah on va utiliser des Chinois. Hein.
La question des modèles chinois va être une question de la souveraineté. C'est-à-dire une question, est-ce que vous êtes plus confortable avec le fait que toutes vos données partent en Chine ou est-ce que vous êtes plus confortable avec le modèle encore judiciaire américain? Sur les très grandes entreprises, je pense que la question va être vite réglée. Voilà, je pense que la question va être vite réglée. Ouais.
On préfère toujours aller vers les US, mais toute donnée n'est peut-être pas bonne.
Exactement.
Être secrète, il y a peut-être des données.
Il va y avoir une grande différence entre les petites entreprises qui, de toute façon, n'ont pas le choix parce que ça va devenir, comme disait Jean-Louis, beaucoup trop cher d'utiliser des modèles américains et qui vont dire, de toute façon, il faut que je sois dans la compétition, et donc tant pis pour mes données qui vont être utilisées par les Chinois, et les très grandes qui ont des modèles qui sont très forts en termes de réglementation, de conformité, de contrôle interne, qui vont dire surtout n'utilisez pas les modèles chinois. On a eu quand même des affaires où on s'est rendu compte que les données, par exemple, de localisation des bus qui étaient commandés en Chine partaient directement en Chine. Mmh. Et que les données en France, hein. Bon, je sais pas si vous avez véritablement envie que tout ça se généralise au niveau de le tissu industriel français.
Il nous reste 30 secondes, Jean-Louis, mais en fait, à la fin, Alex Carpi dit c'est trop cher, mais ça va être encore plus cher, si je comprends bien.
Ah oui,
ce n'est que le début.
Le prix du token est appelé à monter.
À monter.
Ça, c'est certain. Si on veut rentabiliser les investissements qui ont été faits, il va être appelé à monter. La question, c'est effectivement la course entre augmenter le prix du token au risque de ralentir la demande et avoir suffisamment de revenus pour que le marché soit confiant et répondre aux appels.
Ouverture dans 6 minutes. Nicolas Pagnès, on va surveiller Exail Technologies.
Oui, on va surveiller Exail Technologies alors que Thales a annoncé un accord avec Exail Technologies en vue d'un rachat. L'accord qui prévoit dans un premier temps l'acquisition de la participation de la famille Gorgé dans Exail, donc qui est aux alentours de 35%, puis un rachat à 100% à l'issue d'une OPA qui valoriserait Exail à 3,9 milliards d'euros. On parle d'un prix par action aux alentours de 134 euros. C'est plus 44% par rapport au dernier cours de Exail Technologies.
Wilfried Galland, Jean-Louis Nakamura, merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, l'ouverture que vous suivez bien sûr avec Nicolas Pagnès. Demain, Raphaël Gorgé, justement, d'Exail Technologies sera notre invité à partir de 8h30. Il nous racontera tout de cette opération avec Thales et du fait que ça ne se soit pas fait avec Safran. Je vous dis à demain. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Nicolas Pagnès.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Good Morning Market. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 en direct sur BFM Business avec un CAC 40 et un DAX qui sont pour l'instant attendus proches de l'équilibre après avoir tous les deux clôturé dans le vert vendredi en réaction notamment au rapport sur l'emploi publié aux États-Unis la veille et alors que les marchés américains étaient fermés. On note que à Paris, on suivra notamment les valeurs de la défense alors que Thales vient d'annoncer un accord avec Exail Technologies en vue d'un rachat, un accord qui prévoit dans un premier temps l'acquisition de la participation de la famille Gorgé qui détient près de 36% dans Exail Technologies, mais ensuite une OPA pour acquérir 100% d'Exail Technologies. On parle d'une acquisition à 3,9 milliards d'euros, un prix par action à 134 euros, une prime de 44%. On regardera bien sûr l'impact sur les cours de Thales, Exail, mais aussi Safran qui était positionné sur le dossier jusqu'à vendredi. Mais tout de suite, nous vous proposons le flash de Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, le ministre du budget qui fait les comptes. Ce matin, les aides aux entreprises et aux ménages se sont élevées à 1,4 milliard pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran. Les recettes fiscales liées au carburant, elles, ont baissé de 80 millions d'euros au premier semestre. Pour autant, à la veille d'un nouveau comité d'alerte sur les finances publiques, David Amiel prévient sur RTL, il n'y aura pas d'annonce demain, il y aura simplement un cap. Écoutez.
Où en sommes-nous sur la croissance? Parce que, évidemment, la guerre dans le détroit d'Ormuz a eu un impact ces premiers mois sur l'activité.
Donc vous revoyez votre chiffre pour la croissance.
Où en sommes-nous? Eh bien, on actualisera évidemment nos prévisions. Où en sommes-nous sur l'inflation? Et où en sommes-nous sur la dépense? Dépense de l'État, dépense de la sécurité sociale, dépense des collectivités
locales. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas d'efforts nécessaires supplémentaires?
Il faudra, dans tous les cas, dans les prochains mois, poursuivre les efforts. Il faut notamment, en matière de dépenses, pouvoir les piloter pour que les dépenses de l'État n'augmentent pas. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début de la crise.
Dans l'actualité des entreprises, c'est donc finalement Thales qui rafle la mise dans le dossier Exail Technologies. Le géant français annonce ce matin un accord pour reprendre 35% du capital de la famille Gorgé avant une acquisition à 100% via une OPA. Offre qui valoriserait l'entreprise à 3,9 milliards d'euros, c'est-à-dire une prime de 44% par rapport au cours de l'action qui précédait l'annonce des discussions. qui n'ont pas abouti avec Safran. Raphaël Gorgé, le patron d'Exail, sera l'invité de Laure Clausier dans la matinale demain à 8h30. Et puis le groupe Casino annonce ce matin avoir reçu des propositions fermes de ses créanciers et de son principal actionnaire, Daniel Kretinsky, dans la restructuration de sa dette. Des propositions qui sont massivement dilutives pour les actionnaires actuels. Selon le distributeur, qui doit rembourser 1,4 milliard en mars 2027, il prendra une décision ce mois-ci après examen de toutes les positions par sa gouvernance.
C'était le flash de Léo Dumas. On est toujours dans Good Morning Market avec un CAC 40 qui ouvre en très légère progression, plus 0,1% à 8516 points. Vous en aurez le détail dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Ensuite, nous enchaînons avec les experts, avec Raphaël Legendre, que nous avons le plaisir d'avoir en plateau. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour Nicolas.
Au menu des experts aujourd'hui, Raphaël.
Eh ben, on va partir à la recherche du Zucman Pro Business. Sébastien Lecornu, Arconi, AEX, pour rencontre économique d'Aix-en-Provence. Que le gouvernement avait perdu la bataille culturelle, la bataille des idées pour défendre la politique de l'offre. On va voir qui pourrait prendre le flambeau face à Gabriel Zucman. On va revenir sur cette proposition aussi de Philippe Aguillon qui a été endossée par le Premier ministre qui a dit « chiche, on y va ». Taxer les grandes fortunes au moment de la succession ou alors les mettre au service de fonds d'investissement public pour le bien-être commun. On verra ce qu'en pensent mes experts. On viendra aussi sur les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis pour étudier le modèle économique américain qui a beaucoup changé ces 20 dernières années. Et puis enfin, on va revenir sur ces chiffres spectaculaires des fusions acquisitions. L'Europe rachète-t-elle sa place dans la mondialisation? On va voir. Il y a beaucoup d'opérations. On a parlé du rachat d'Exail par Thales juste à l'instant. Il y a beaucoup de deals qui sont en train de nouer en ce moment. C'est plutôt bon signe pour l'avenir. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrick Artus, Emmanuel Combes et Erwan Lenohan. Rendez-vous tout à l'heure à 9h30.
Voilà, le CAC 40 qui ouvre en très légère progression, plus 0,07% à 8513 points. On reste au-dessus des 8500 points qu'on avait retrouvés vendredi. On voit que le DAX, de son côté, ouvre en très léger recul, moins 0,07% à 25760 points. Du côté de l'Eurostox, c'est un léger recul également, à moins 0,11% à 6405 points. Du côté des valeurs, on regarde bien sûr Exail Technologies, plus 4% à l'ouverture en lien notamment avec cette annonce d'accord avec Thales qui vise à racheter Exail Technologies. Donc un accord qui valorise Exail Technologies à 3,9 milliards d'euros avec une prime donc de 44% par rapport au dernier cours de clôture puisque le prix proposé est de 134 euros par action. Thales qui recule de son côté, moins 1,60%. Et Safran qui affiche une très légère progression à moins 0,2%. On rappelle que Safran était positionné sur le dossier jusqu'à vendredi avant donc de se désengager. Vendredi, on regarde du côté des plus fortes hausses à la Bourse de Paris, Stellantis plus 1,83%, Société Générale, Pernod Ricard, Essilor Luxottica ou encore Kering. On voit que les plus fortes baisses sont notamment signées par Thales, qui est la plus forte baisse à l'ouverture du CAC 40, mais suivi de ST Microelectronics, Schneider Electric, ArcelorMittal ou encore Legrand. On regarde rapidement du côté du pétrole, alors que l'OPEP a annoncé augmenter sa production, son objectif de production pour le mois d'août de 188 000 barils jour, une augmentation de production similaire à ce qui avait déjà été décidé pour le mois de juin et le mois de juillet. On voit que le baril de Brent est à 72 dollars à l'heure actuelle et le WTI à 68 dollars. On reviendra sur tous ces éléments dans Good Morning Market. On regardera évidemment l'ouverture des marchés. On se posera la question de cette rotation sectorielle. Existe-t-il une rotation sectorielle entre les valeurs de la tech et notamment des semi-conducteurs et les valeurs de la défense? Et puis bien sûr, vous découvrirez trois valeurs dans la rubrique en portefeuille. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Nicolas Pagniez.
Vous êtes toujours en direct sur BFM Business dans Good Morning Market avec un CAC 40 qui ouvre dans le vert, plus 0,18% à 8523 points. À noter que les plus fortes hausses se sont signées Stellantis, Essilor Luxottica ou Société Générale, tandis que les plus fortes baisses se sont signées Thales, ArcelorMittal ou encore ST Microelectronics. Et nous sommes dans la rubrique en portefeuille où nous avons le plaisir d'accueillir Céline Bourban. Bonjour Céline.
Nicolas.
Céline, donc vous êtes vendeuse d'actions institutionnelles chez Ports en Part BNP Paribas. Vous sélectionnez régulièrement dans Good Morning Market trois valeurs que vous étudiez et notamment dont vous estimez qu'elles offrent des perspectives intéressantes. On commence avec une première valeur qui est 2CRSI qui propose et qui fait notamment des serveurs français. Pourquoi est-ce que vous suivez de près cette valeur aujourd'hui, Céline ?
Ouais, bah écoutez, je vous la propose. Enfin, je voulais en discuter ce matin parce que le titre, en fait, a été attaqué récemment, comme vous le savez, par le short-seller, le vendeur à découvert Grizzly Research. Donc, le titre avait absolument chuté. Là, il a presque doublé depuis son point bas post-attaque, qui était. Enfin, donc voilà. Donc là, on est à peu près à 36 aujourd'hui, mais on est encore très loin du cours qui était pré-attaque de Grizzly Research, qui était à peu près 45. Donc, la société a répondu, hein, de CRSI, enfin, un long webinaire, etc. Nous, on a écouté le webinaire, on a vraiment été creusé dans le dossier et on a réaffirmé notre confiance à la société, estimant que les attaques en fait avaient surtout profité d'une mauvaise communication de CRSI, un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que normalement ça devrait s'améliorer au niveau de la communication. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que sur les 6 prochains mois, on va avoir des news flow très très intéressants sur le groupe. Donc le 8-9 juillet, donc ça c'est d'ici 2 jours, on va avoir le RISE Summit, hein, donc c'est la grande messe de l'intelligence artificielle à Paris. Et durant ce forum, en fait, RISE Summit, de CRSI va dévoiler le consortium pour le projet Ether, donc c'est le fameux projet européen de giga-usine pour l'intelligence artificielle. Donc, il devrait sortir avec de beaux noms. L'appel d'offres européen a pris un petit peu de retard, mais il pourrait être lancé en juillet pour une réponse espérée en fin d'année. Mais quoi qu'il arrive, Ether devrait prendre forme avec ou sans financement public. Ensuite, on a les résultats annuels qui seront publiés le 23 juillet et le chiffre d'affaires annuel est attendu avec un doublement de x2 et un EBITDA x5 x6. Pour la mi-septembre, on aura aussi la livraison de la première tranche à NYGC pour à peu près 205 millions et finalement en novembre, l'entrée en production de Valeo pour 2CRSI. Ils avaient signé un partenariat l'année dernière pour le développement de solutions innovation et refroidissement immersif pour les data centers. Donc en gros, globalement, le contexte il a été difficile effectivement et ça a levé beaucoup ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes au niveau des investisseurs, mais nous restons confiants et on pense que le contexte reste durablement porteur pour de ces récits avec tous les investissements autour de l'IA et l'adoption croissante de systèmes de refroidissement liquide.
Du cours de bourse, Céline, si on regarde sur un mois de ces récits, donc c'est quand même -33%, vous l'avez évoqué, hein, notamment avec l'actualité récente. Depuis le 1er janvier, c'est plus de 200% de performance en bourse quand même, hein.
Ah oui, non mais tout à fait, ouais, mais si vous voulez, c'est que nous en fait sur la base de notre scénario actuel, on n'a pas vraiment changé notre scénario, on a juste en fait été un petit peu plus prudent. On a légèrement augmenté notre WACC, hein, on a un prix objectif à 59,3. Donc si vous voulez, c'est que là, vu les perspectives qui se présentent en fait pour de CRSI, les nombreux contrats qui vont être présentés, le chiffre d'annuel qui va faire x2 et surtout une profitabilité, un EBITDA qui va faire x5 x6, ça nous semble absolument pas incohérent.
Deuxième valeur que vous suivez, il s'agit de Leasy. Alors là, on est chez un prestataire, un sous-traitant qui fabrique des composants pour l'aéronautique et l'automobile.
Ouais, tout à fait. Alors, beau parcours également pour Leasy. On continue à être confiant dans le sens où la publication du premier trimestre était déjà assez épatante, bien au-dessus de nos attentes. Et sur le deuxième trimestre, on attend une accélération de la croissance qui sera notamment tirée par la division aéronautique. Et une division qui représente quand même 68% du chiffre d'affaires. Donc, ils ont également une division auto, qui subit toujours un contexte de marché un peu difficile. Mais tout de même, le groupe a réalisé un travail sur le mix produit et des gains d'efficacité, qui leur permet quand même de rester assez résilient et stable. Donc, nous, ce qu'on joue, c'est qu'on joue la publication du 23 juillet pour Leasy. Ils vont publier le deuxième trimestre. Le management a confirmé que le carnet de commandes dans l'aéronautique reste solide avec des gains de parts de marché. Donc sur l'exercice 2026, nous on attend un chiffre d'affaires qui va représenter une croissance de 18% en organique et qui sera notamment tiré par la division aéronautique bien sûr, et une belle croissance séquentielle à partir du deuxième trimestre. Donc il y a des leviers opérationnels également qui restent à notre sens sous-estimés. Il y a eu beaucoup de recrutements en 2023-24 avec un programme de robotisation qui a permis des gains de productivité. On a également une amélioration du mix. Donc mis bout à bout avec l'effet volume, le levier opérationnel devrait être quand même plus fort qu'attendu. On a également, alors par contre, une inflation sur le titane et les droits droits de douane américains qui devraient peser un petit peu sur la marge opérationnelle de l'aéro, mais ça restera quand même plus qu'honorable et ça continuera de tirer la marge opérationnelle du groupe. Donc pour 2026, on attend une marge opérationnelle de l'aéro en progression de 1,8 points, alors que le consensus reste encore très prudent. Alors nous, on pense que le consensus va finir par relever. Nous, on attend en fait une marge aéro à 13,6, tandis que le consensus est à 12,9. Donc voilà, et finalement, le groupe bénéficie d'une belle réserve de cash et confirme être à la recherche de cibles à forte valeur ajoutée. Donc le news flow devrait être porteur. Et nous avons donc un TP objectif à, alors on est à 74, donc ça laisse un petit upside, mais je pense que les perspectives à moyen terme restent encore solides pour l'ISI.
On voit que depuis un mois, l'ISI gagnait 8%, un peu plus de, près de 9% en bourse, et c'est plus 32% depuis le début de l'année. Dernière valeur que vous suivez, Céline, il s'agit de Thermador. Là, on est dans les solutions de chauffage pour le coup.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc, si vous voulez, c'est que nous, en fait, Thermador, donc, on les a rencontrés à la conférence Small Cap de Port-en-Parc, qui a été organisée il y a 2 semaines. Ils avaient, donc, le management, en fait, est positif, et la solide croissance qu'ils avaient enregistrée au premier trimestre devrait se poursuivre sur le deuxième trimestre avec une publication qui est prévue le 13 juillet. Donc, les volumes, apparemment, sont bien orientés et également, en fait, les prix aussi. Alors, parmi les effets positifs qu'on peut voir, c'est notamment, donc, un coût du fret qui est stabilisé, via la signature, finalement, de contrat annuel. Mais on a également, alors de manière un petit peu contre-intuitive, le prix du polyéthylène qui augmente. Alors ça peut sembler contre-intuitif, mais ce phénomène permet en fait de calmer la guerre des prix, dans le sens où il y avait une guerre des prix effectivement assez intense avec les concurrents qui étaient assez agressifs. Et ça, finalement, ce relèvement de prix sur le polyéthylène pousse bien les sûr. Concurrents les plus agressifs à remonter leur prix. Donc ça permet finalement de rendre la position concurrentielle de Thermador plus concurrentielle sur le marché des travaux publics notamment. Et finalement, donc ils ont seulement, alors il y a également en fait le système d'ajustement carbone aux frontières qui peut les impacter, mais Thermador, en fait, le management explique que seulement 2-3 filiales seulement sont exposées à ce système. Donc finalement, l'impact est relativement modéré, d'autant que l'import reste encore compétitif vis-à-vis des prix européens. Donc les voyants sont honnêtement ouverts, le groupe reste actif sur les M&A avec des points de vigilance qui demeurent bien entendu, à savoir le contexte géopolitique et l'activité en fait du logement en France, qui, il faut espérer, ne subira pas une nouvelle dégradation. Donc bien sûr, voilà, voyant ouvert, mais il y a quand même des petites précautions à prendre. Le scénario implique une croissance organique sur l'année d'un peu plus de 4% sur l'exercice. Et honnêtement, quand on regarde la valorisation du titre, ils ont un très bon retour sur capitaux investis. Donc le ROCE est à 20% et les multiples sont malheureusement au plus bas. C'est-à-dire que l'EV EBITDA, il est 2026, est à 8 fois contre une moyenne de 10 fois sur les 10 dernières années. Donc nous, on a un TP à 92,5 avec un prix actuel qui est à 70. Pardon, non, excusez-moi, on est sur Thermador, avec bien un sûr, prix objectif autour de 79, voilà.
Alors, on note que le titre de Thermador, à l'heure actuelle, est aux alentours de 80 euros, en progression de plus de 2% depuis le début de l'année, mais près de plus de 16% quand même depuis un mois. Merci Céline Bourban de nous avoir accompagnés dans la rubrique En Portefeuille. Je rappelle que vous êtes vendeuse d'actions institutionnelles chez Port-en-Parc BNP Paribas. Et quant à nous, on enchaîne tout de suite avec le focus du jour. Le focus du jour, c'est avec François Gobron, Equity Fund Manager chez General Investment. Bonjour François.
Bonjour Nicolas.
Ravi de vous retrouver sur le plateau donc de Good Morning Market avec un CAC 40 qui a ouvert en légère progression, plus 0,3% à 8533 points. Et avec cette nouvelle qui est tombée ce matin, cet accord entre Thales et Exail Technologies. Alors Exail Technologies était en discussion avec Safran jusqu'à vendredi. Safran s'est retiré du dossier, il l'a annoncé vendredi après la clôture. On apprend ce matin que Thales pourrait racheter la participation de la famille Gorgé dans Exail Technologies à hauteur de 36% et ensuite réaliser une OPA pour acquérir l'ensemble des titres de Exail Technologies. Le prix proposé est de 134 euros par action. Ça valorise l'entreprise à 3,9 milliards d'euros et c'est une prime de 44% par rapport au dernier prix, au dernier cours de Exail Technologies. Que penser de cette concentration qu'on voit dans le secteur de la défense européen, secteur de la défense dont on voit d'ailleurs qu'il se tient plutôt bien à l'heure actuelle et qui pose même la question de savoir si on ne pourrait pas arbitrer la technologie pour aller vers la défense. Mais d'abord, peut-être une réaction quand même à cette nouvelle qu'on a eue ce matin.
Oui, alors toute cette histoire fait une sorte d'ensemble. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, il y a la doctrine des armées qui est en train de changer, et on est en train de passer des matériels très lourds à des matériels plus légers, des drones et des choses comme cela. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a Thales Et Safran qui sont très intéressés par XL et qui sont en train de l'un ou l'autre de racheter.
Bien sûr.
On a également en Italie aujourd'hui même Fincantieri qui rachète NextGeo, qui est une société qui fait aussi des drones sous-marins. Et on voit que vraiment, à côté de ça, il y a eu beaucoup d'annulations de commandes sur les 6 derniers mois. On a eu Constellation, les frégates Constellation aux États-Unis qui ont été annulées. On a eu très récemment les frégates F-126 qui ont été annulées. Et Rheinmetall a perdu jusqu'à 20% il y a 15 jours en bourse. Et on a également eu d'autres annulations. Au UK notamment, avec la Royal Navy qui a également annulé ses commandes de frégates. Et tout ça pourquoi ? Pour passer sur des solutions plus légères, où on n'a pas des dépassements de budget de 2 fois ou 3 fois comme on l'a vu, on n'a pas des budgets qui sont étalés sur 5 ou 10 ans parce que c'est des projets très très longs. On achète des drones, c'est moins cher et c'est immédiatement efficace.
Donc en fait, il y a quand même une évolution aussi dans le secteur de la défense. C'est vrai qu'on a cette image un peu d'aller vers les entreprises industrielles de défense et on pourrait parfois les mettre en opposition parfois aux valeurs tech, notamment quand on voit les parcours boursiers et les arbitrages qui peuvent y avoir. Qui peuvent donner l'impression d'avoir. Après, vous nous direz si vous partagez cet avis ou non. Mais en fait, il y a quand même une vraie transformation technologique aussi dans le secteur de la défense et dans l'appréciation même des cibles que peuvent avoir les grands groupes aujourd'hui.
Oui, les marchés ont ont anticipé beaucoup ce changement de doctrine. Et les grands groupes ont pas mal souffert depuis le début de l'année. Rheinmetall est en baisse de, je pense, 30%. J'ai pas les chiffres précis, mais en baisse de 30%, mettons. Et alors que les techs sont en forte hausse. Et il y a eu cet arbitrage, alors qui s'est vraiment bien illustré la semaine dernière avec la défense qui était en hausse d'un coup d'un seul de 5% à peu près, alors que les semi-conducteurs baissaient de 5%. Et donc on s'est dit, il y a peut-être une histoire de flux de l'un à l'autre. Moi, je pense qu'en fait, il faut détenir les deux secteurs. On parle de souveraineté, la souveraineté technologique, la souveraineté de défense. Ça peut pas se passer si on n'a pas l'écosystème en Europe. Et donc, pour moi, les semi-conducteurs sont aussi indispensables que la défense l'est en ce moment.
Il ne faut pas opposer l'un et l'autre et se dire qu'effectivement, on est en train de sortir du train des semi-conducteurs pour aller vers le train de la défense. Non, ce serait une vision peut-être trop caricaturale de ce qui se passe sur les marchés à l'heure actuelle.
Oui, je pense que les marchés sont toujours un petit peu excessifs. Et ce qu'on a vu jeudi, c'est effectivement, pour moi, une très belle occasion de rentrer de nouveau sur les semi-conducteurs qui sont effondrés de 5% sans vraie raison fondamentale.
Oui, bien sûr. C'est uniquement une sorte de... C'est quand même plus 80% depuis le début de l'année, mais ça montre un doute quand même sur les valorisations à l'heure actuelle de ces valeurs.
Oui, tout à fait.
Quelle sélectivité avoir sur ces types de valeurs avant de passer à un autre sujet tech que celui de SpaceX, mais comment est-ce qu'on met en œuvre une certaine sélectivité, que ce soit sur les valeurs de la défense ou les valeurs tech?
Alors sur les valeurs tech, moi ce que je prends, c'est des valeurs qui sont en situation de monopole ou de quasi-monopole. Alors on peut parler d'ASML, d'ASMI qui sont les grands vainqueurs en Europe. Et sur la défense, je vais prendre les sociétés qui sont justement pas sur des matériels très lourds. Donc on a Rheinmetall effectivement qui est un peu l'éléphant sur le marché, mais à côté de ça, Thales finalement est assez exposé à pas mal de projets dans tous les sens, que ce soit des drones ou des matériels lourds, donc c'est aussi extrêmement intéressant. Et puis après, c'est vrai que je suis plutôt à l'écart des sociétés qui sont vraiment très focus sur par exemple des frégates.
François, SpaceX n'a que quelques jours en bourse, de vie sur les marchés boursiers et va faire aujourd'hui son entrée dans le Nasdaq 100. C'est très rapide. Il y a même eu un changement de règle pour faire rentrer SpaceX plus rapidement dans les indices, qui risque de plaire d'ailleurs à un certain nombre d'investisseurs en ETF. Quel impact ça a boursièrement et à quoi est-ce qu'il faut faire attention?
Alors, effectivement, c'est la première fois que ça arrive aussi rapidement. Ce qu'on voit, c'est que le Nasdaq, en fait, il y a beaucoup d'ETF qui suivent le Nasdaq. Le premier, c'est celui d'Invesco, qui fait 300 milliards d'encours, je crois. Et quand on fait les calculs, alors le flottant de le SpaceX est très faible. On est à 5% de flottant, ce qui veut dire que en fait, on aura 1% du Nasdaq qui sera représenté par SpaceX.
D'accord.
Ça va faire 1% du Nasdaq, c'est assez petit. Mm-hmm. Ça va monter parce que le flottant va grossir avec la fin des lock-up post
IPO. Bien sûr, c'est au bout de 6 mois, ça, effectivement. Oui.
Voilà, puis il y a des cliquets, on va dire. Mais c'est vrai que ça va impliquer beaucoup de flux entrants sur SpaceX. C'est au total entre 20 et 27 milliards de dollars de flux entrants sur SpaceX liés uniquement aux ETF Nasdaq.
D'accord.
Donc on va avoir cet effet-là et effectivement on va voir comment se comporte SpaceX, parce que SpaceX en fait son comportement va déterminer également 2 ou 3 IPO importantes, on parle Anthropic, OpenAI qui veulent faire leurs IPO dans les 6-12 prochains mois.
Bien sûr.
Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une histoire de flux encore une fois où on est en train de drainer des flux vers ces sociétés-là, et il faut bien prendre l'argent quelque part, donc ça va être les autres sociétés, que ce soit dans les éditeurs de logiciels Shell ou les grandes sociétés qui ont déjà beaucoup monté depuis le début de l'année, qui vont se retrouver impactées.
Est-ce que ce qui va se jouer aujourd'hui, donc l'entrée de SpaceX dans le Nasdaq, va faire figure de test pour les IPO d'Anthropic ou d'OpenAI à venir? Parce que on a vu hein, quand SpaceX a fait ses premiers pas en bourse, qu'il y avait une sorte de course à la communication, notamment de la part d'Anthropic et OpenAI, pour rappeler aux investisseurs qu'il y allait avoir d'autres IPO et qu'il fallait pas tout investir dans SpaceX. Est-ce que là, ça va prendre la forme d'un test, entre guillemets, et notamment pour les investisseurs particuliers qui détiennent des ETF?
Oui, oui, tout à fait. Ça va être vraiment un test pour Anthropic. Ils vont décider, d'ailleurs, Anthropic va décider de s'introduire ou pas et de la période à laquelle va s'introduire ou pas. En
fonction de ce qui se joue aujourd'hui.
Ce qui se joue aujourd'hui, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez important.
Si on voit effectivement le cours de SpaceX progresser énormément ou au contraire marquer une pause, ça peut remettre en cause une IPO, enfin le timing de l'IPO d'Anthropic.
Le timing de l'IPO, oui, oui, tout à fait.
Dernier sujet, il nous reste un peu moins de deux minutes sur ce comité d'alerte des finances publiques qui se tient donc demain, le 7 juillet. Qu'est-ce que ça nous dit? Quel impact ça peut avoir boursièrement et comment est-ce qu'on regarde ça quand on est investisseur sur les marchés?
Alors c'est un point très important. Ce qu'on voit, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation de dette qui est assez catastrophique. On est à 117,5% du PIB avec une cible entre guillemets à 118,5% à la fin de l'année. Et ça a des impacts assez conséquents parce qu'on n'est pas très loin des élections présidentielles. Et ce qui va se passer, c'est que le gouvernement risque de ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout de l'idée.
Hein.
Donc
bien sûr,
va donner un cap et va pas donner des montants précis. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont probablement couper dans les dépenses d'investissement. Pas dans les dépenses courantes, mais dans les dépenses d'investissement. Donc ça fait.
Et donc ça soutiendra moins l'économie. Potentiellement, parler de la défense tout à l'heure. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le secteur de la défense français et donc européen?
Exactement. Toutes les sociétés qui sont très liées à la commande publique française sont, à mon avis, en risque d'avoir des commandes qui sont rognées ou décalées.
Et pardon, mais alors, il nous reste quelques secondes. Mais c'est vrai que si je reprends les valeurs liées à la souveraineté, on nous dit souvent quand même que un des grands moteurs de croissance, c'est la dépense publique européenne, notamment le plan de dépense allemand, mais aussi les attentes côté français. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire attention à ce comité donc d'alerte des finances publiques. Ça peut venir remettre en cause ce scénario d'investissement.
Alors, j'espère que non, mais effectivement, on est dans une situation budgétaire qui est compliquée. La charge de la dette, c'est le premier poste de budget de l'État. On est au-delà des grands postes de dépenses régaliens qui sont la défense et l'éducation.
Bien sûr.
Donc ça pose de vraies questions sur les moyens qu'a la France de déployer ses stratégies en termes de souveraineté.
Merci beaucoup François Gobron. Je rappelle que vous êtes Equity Fund Manager chez Generali Investment. Et quant à nous, on enchaîne en direct des marchés. En direct des marchés, c'est avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, avec un CAC 40 qui ouvre en progression de 0,38% à 8540 points. Bonjour Alexandre, quelle analyse vous avez de cette ouverture sur le CAC 40 aujourd'hui?
On voit que le CAC 40 est toujours plutôt bien orienté ces derniers jours. On rappelle que d'autres indices européens, comme le DAX par exemple, il y a quelques jours, là c'était la semaine dernière si je me souviens bien, a battu de nouveaux records. Donc là, on voit que la partie européenne, les actions européennes globalement, surperforment les gros indices américains, que ce soit le Nasdaq notamment ou le SP500, parce qu'on voit qu'il y a, et on l'a vu sur l'Asie notamment, avec des pays comme la Corée du Sud, on voit qu'il y a un peu plus de volatilité sur la partie tech, la partie liée à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs. Donc les indices américains étant plus pondérés de ces valeurs-là, eh bien performent moins bien depuis à peu près deux semaines, trois semaines. On voit que les indices européens, eux, se comportent un petit peu mieux. Sachant aussi que la partie européenne bénéficie du retrait vraiment très rapide des cours de l'énergie, avec un pétrole qui, notamment si on regarde les cours du baril de Brent, donc avec le pétrole européen, qui sont revenus sur les niveaux d'avant-guerre en Iran. Donc on voit que cet environnement auquel l'Europe avait été sensible dans le mauvais sens, au début de la guerre en Iran, avec les taux qui se redressaient et le pétrole qui grimpait, mais maintenant on est dans le schéma inverse. Les taux ne sont pas complètement revenus, hein, si vous regardez les taux à 10 ans en Europe, les taux de référence, ils sont toujours un peu au-dessus des niveaux d'avant-guerre en Iran. Donc il y a toujours un sujet de taux quand même qui persiste un petit peu en Europe et aux États-Unis, mais on voit que les actions, globalement, et notamment les actions du CAC, aiment bien effectivement l'environnement de détente des prix d'énergie. Et donc on n'est plus très loin pour le CAC 40 d'un record. Donc c'est à surveiller. On rappelle que des indices comme l'IBEX en Espagne, c'est l'équivalent du CAC espagnol, ou le MIB en Italie, eux ont aussi battu des records historiques hein, ces derniers jours, dernières semaines. Donc voilà, c'est le CAC dividende inclus, lui, il bat des record, hein, mais c'est le CAC hors dividende qui est toujours un petit peu en dessous de ses niveaux.
Quand on regarde rapidement les marchés américains, alors il est encore un peu tôt pour avoir une tendance, mais les futurs laissent quand même entendre une ouverture dans le vert, notamment pour le S&P 500. Alors c'est vrai qu'ils étaient fermés vendredi. Est-ce qu'on va avoir une réaction en décalage au rapport sur l'emploi publié jeudi, Alexandre ?
Alors là-dessus, moi sur les marchés américains, je pense encore une fois, et on le voit d'ailleurs dans cette petite surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, on voit qu'il y a une forme un peu de prudence qui s'est emparée des marchés américains. C'est pas des grosses corrections ou autres, hein, c'est plutôt de la latéralisation, vous voyez, pendant depuis quelques jours maintenant, à l'approche de la saison des résultats. Et on rappelle que à partir de la semaine prochaine, on va commencer tranquillement à rentrer dans la saison des résultats aux États-Unis, et puis le gros des publications, celles qui intéressent vraiment les investisseurs par rapport au niveau de pondération des indices, à savoir les valeurs tech. Les valeurs technologiques américaines et les 7 magnifiques ou autres vont publier plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc on a l'impression que les marchés américains arrivent là-dedans avec un petit peu de, prudence, ça veut dire que l'on baisse, mais un petit peu d'attentisme, ne veulent pas forcément pousser les cours tout de suite plus haut, parce que, on est sur des performances quand même qui ont été assez remarquables dans plusieurs compartiments des marchés américains. Donc ça, c'est le premier sujet. Je pense qu'il y a un peu d'attente par rapport aux résultats. Et puis, aussi, il y a la question de la politique monétaire. Cette semaine, on aura les minutes de la réunion de la Fed. On a vu que c'est une réunion que les marchés avaient eu un peu de mal à digérer. Les taux s'étaient un petit peu redressés parce que la nouvelle version de la Fed sous Kevin Warsh, c'est moins de projections. On donne moins d'informations au marché. On laisse un peu plus dans l'incertitude par rapport aux décisions de politique monétaire. Et on parlait des taux tout à l'heure pour l'Europe, mais au niveau des États-Unis, vous avez un vrai sujet sur les taux qui persistent. Les taux ont eu beaucoup de mal à se détendre depuis plusieurs jours, malgré le fait que les cours de l'énergie aux États-Unis repartent fortement à la baisse. Donc il y a un sujet aussi un peu politique monétaire et niveau de taux aux États-Unis qui freine un peu le marché américain.
Merci Alexandre Baradez donc d'avoir été avec nous en direct sur BFM Business dans Good Morning Market. Dans un instant, restez avec nous, vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. Et quant à moi, je vous dis à demain matin.
Good Morning Market sur BFM Business.